France, le plan secret de Varin chez PSA. Comment la bourgeoisie concocte ses attaques contre la classe ouvrière. Les documents internes mis au point par la direction de PSA en 2010 et révélés en juin dernier par la CGT et le site d'information Mediapart présentent un réel intérêt. Ces documents permettent en effet de voir écrite noir sur blanc la façon dont les professionnels de la bourgeoisie raisonnent et travaillent, ce qui entre en ligne de compte dans leurs projets et ce qui n'y entre pas. Pour tous ceux qui nient la réalité de la lutte des classes, ces documents constituent une réponse, bien involontaire certes, mais écrite de la main même des dirigeants capitalistes. Étudier ces documents est fort instructif pour tous ceux qui veulent comprendre et combattre cette société. Ce genre de notes n'est jamais destiné à sortir des bureaux d'une direction et encore moins à être étalé dans la presse. La bourgeoisie a l'habitude de gérer la société dans le secret et l'opacité les plus absolues. Pas seulement pour des questions de concurrence, mais plus généralement parce que tout le fonctionnement de la société capitaliste est fondé sur un mensonge, ou plutôt sur une accumulation de mensonges visant à masquer aux yeux des exploités l'opposition fondamentale entre le capital et le travail. La transparence, la publicité des plans et des intentions de la bourgeoisie sont foncièrement incompatibles avec la dictature de celle-ci. Alors, pour une fois que de tels documents se retrouvent sur la place publique, qu'il s'agisse d'une grosse erreur d'aiguillage de la direction ou de l'acte volontaire d'un cadre qui aurait souhaité que ces documents soient révélés, il nous paraît utile d'essayer de les décrypter le plus précisément possible. Un peu d'histoire. Avant de se pencher sur les documents eux-mêmes, rappelons rapidement quelques éléments sur le groupe PSA, qui englobe les marques Peugeot et, depuis 1976, Citroën, et est aujourd'hui sixième producteur mondial de voitures. Ce groupe a toujours été adepte d'une politique de choc vis-à-vis des ouvriers et des militants syndicaux. Il existe par exemple, depuis des décennies, dans ces deux entreprises aujourd'hui réunies en une seule, un syndicat, entre guillemets, maison, dont les exactions furent particulièrement violentes dans les années 70. Ce syndicat porta successivement les noms de CFT, Confédération Française du Travail, de 1959 à 1977, puis de CSL, Confédération des Syndicats Libres, de 1977 à 1999, avant de devenir SIA, Syndicat Indépendant de l'Automobile, nom qu'il porte toujours aujourd'hui. La CFT d'origine avait des liens fort troubles avec les milieux d'extrême droite, le SAC, les hommes de main du service d'ordre du RPR, dirigé par Charles Pasqua, qui lui fournissait des fonds, les anciens militaires et le milieu tout court qui fournissait les hommes. Dans son livre « L'établi », l'écrivain Robert Linhard décrit ainsi la CFT, entre guillemets, un ramassis de briseurs de grève et de truqueurs d'élections, enfants chéris de la direction. Pour avoir une petite idée de la manière dont PSA envisageait alors ses relations avec les ouvriers, il suffit de rappeler qui étaient au début des années 70 les dirigeants de ce qu'on en appelle pompeusement aujourd'hui, entre guillemets, les ressources humaines du groupe. Le directeur du personnel du groupe était alors le général Charles Février, ancien directeur de la sécurité militaire de l'État. Le responsable de la sécurité de l'usine de la Garenne, l'ancien parachutiste et militant du groupe d'extrême droite Ordre Nouveau, Jean-Claude Hourdeau. Comme l'a raconté le journaliste Claude Angéli dans son livre « Milice patronale chez Peugeot », les dirigeants du groupe firent appel, après 1968, à une agence d'intérim spécialisée dans le recrutement de briseurs de grève pour embaucher à l'usine de Sochaux plus d'une centaine de gros bras chargés, en temps normal, d'espionner les militants ouvriers et, en cas de grève, de les tabasser à coups de barre de fer. Cette agence d'intérim, appelée Nota, était dirigée, entre autres, par le colonel Albert Lenoir, ancien bras droit du colonel Bijard pendant la bataille d'Alger, Claude Peintre, ancien chef des commandos de tueurs de l'OAS, ou Jacques Prévost, ancien para, membre de l'OAS lui aussi, et membre du commando qui tenta d'assassiner De Gaulle au Petit Clamart en 1962. La direction de PSA ne faisait décidément pas la fine bouche quand il s'agissait de recruter des mercenaires pour encadrer ses usines. Et, comme l'écrivait fort justement Claude Angéli, il ne s'agissait pas de la réaction d'un patron affolé par la naissance subite d'une section syndicale, mais de la décision réfléchie d'un état-major de dirigeants issu du meilleur monde et partout respecté. Fermez les guillemets. En juin 1977, aux Verreries mécaniques champenoises à Reims, le patron, un certain Maurice Papon, fit appel au commando de la CFT de l'usine Citroën Reims pour déloger des grévistes. Le commando ouvrit le feu sur un piquet de grève, tuant un militant de la CGT, Pierre Maître, et en blessant grièvement deux autres. Ces événements sont anciens, mais ils illustrent les méthodes de la famille Peugeot, directement commanditaire de la CFT-CSL. Si les commanditaires de l'époque, Roland ou Pierre Peugeot, sont aujourd'hui décédés, ce sont les enfants de ce dernier, Thierry Peugeot et Marie-Hélène Roncoroni, qui dirigent le groupe. Et les méthodes n'ont que peu changé au fil des années. Lors de la création de l'usine d'Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, en 1973, face aux violences physiques des commandos de la maîtrise, il a fallu le courage et la détermination d'un noyau de militants syndicaux dirigés par deux militants du PCF pour créer la CGT. Mais pour imposer la CGT dans l'usine comme le syndicat incontournable des travailleurs, ce fut la grève de 1982, celle, entre guillemets, du printemps de la dignité, qui mit un coup d'arrêt à certaines pratiques de cette maîtrise, comme celle consistant à obliger les ouvriers à remettre à leur chef le bulletin de vote pour la CGT après une élection de délégués du personnel. Et jusqu'à aujourd'hui encore, à Aulnay notamment, la présence des militants du SIA est pesante. L'adhésion à ce syndicat permet de faciliter l'embauche ou l'évolution de carrière, pendant qu'à contrario, l'adhésion à la CGT est synonyme de discrimination systématique. Les grèves de 2005 et de 2007 ont certes forcé une deuxième fois la maîtrise SIA à en rabattre, mais il y a quelques mois encore, la direction fabriquait de toutes pièces un dossier d'accusation pour tenter de licencier un jeune délégué CGT. Des plans de licenciement successifs. Les méthodes de PSA sont, certes, celles d'un patron de combat, mais pour autant, le plan actuellement concocté par la direction n'a rien à voir avec ce constat. C'est dans toute la bourgeoisie que les mêmes questions se posent et que les mêmes réponses sont apportées. La concurrence entre capitalistes oblige ceux-ci à moderniser leurs outils de production, c'est-à-dire à investir une partie de leurs capitaux dans des machines coûteuses. Et il s'agit pour eux de rattraper ces dépenses sur ce que l'on appelle le capital variable, c'est-à-dire les salaires. N'ayant pas la possibilité de baisser les salaires de manière absolue, les patrons le font de manière relative en augmentant la charge de travail sur chaque ouvrier, ce qui, au final, revient au même. Cette politique de hausse de la productivité est au cœur de la gestion capitaliste de l'industrie, dans l'automobile comme ailleurs. Mais dans le secteur automobile en particulier, c'est une véritable course à la fermeture d'usines qui a été engagée depuis qu'a éclaté la crise économique en 1973. Face à la saturation du marché de la voiture dans les pays riches, l'industrie automobile a cherché, et a réussi, à maintenir ses profits en limitant au minimum ses immobilisations de capital fixe. C'est alors qu'ont commencé les fermetures d'ateliers, puis d'usines entières, en même temps que se développait la politique de stock zéro, toujours pour limiter les immobilisations et la mise en œuvre d'une exploitation maximale des usines restantes, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 si possible. Cette politique a conduit à une véritable saignée dans les emplois industriels de l'automobile depuis la fin des années 70. Au début des années 80, PSA procéda à d'énormes plans de licenciement. 7300 chez Talbot en 1983 et 6000 chez Citroën en 1984, dont 1600 à l'usine d'Aulnay-sous-Bois. Il y aura finalement 800 licenciements secs et autant de suppressions d'emplois par aide au retour ou mise en pré-retraite. Ces plans de licenciements successifs provoquèrent des grèves dures, marquées par des affrontements violents entre les ouvriers et la maîtrise. On peut noter que l'intervention du nouveau gouvernement socialiste, derrière une façade de beaux discours, revint alors à entériner les suppressions d'emplois. Pour ne prendre que l'exemple de Citroën, le gouvernement annonça pompeusement, en mai 1984, qu'il, entre guillemets, refusait 2000 suppressions d'emplois sur 6000, ce qui revenait à dire qu'il en acceptait 4000. Le ministre des Affaires sociales, Pierre Brégovoy, déclarait alors que le sureffectif à Citroën était, entre guillemets, indéniable. Pour tenter d'éviter ces 2000 licenciements, le gouvernement proposa un aménagement du temps de travail, entre guillemets, dont les frais seraient entièrement pris en charge par l'État. ce que la direction de PSA refusa. À l'époque déjà, on le voit, interdire des licenciements et exiger que les constructeurs payent pour maintenir l'emploi n'était pas plus dans les mœurs d'un gouvernement socialiste, avec participation du PCF, que dans celles d'un gouvernement de droite aujourd'hui. Et pas plus que cela ne le sera pour l'éventuel gouvernement socialiste qui aura peut-être à gérer la fermeture d'Aulnay après 2012. Bien entendu, les suppressions d'emplois massives dans les années 80 n'ont pas été l'apanage du seul groupe PSA. Renault en annonça 15 000 en 1984, puis 21 000 sur 2 ans en 1985, le plus souvent par des aides au retour et des reclassements. Dans les années 80, de nombreuses usines du groupe PSA ont été purement et simplement rayées de la carte, comme l'usine d'assemblage de Citroën Levallois et ses 3500 ouvriers en 1987. En 1992, Renault fermait son usine de Billancourt, puis celle de Vilvoorde en Belgique en 1997. À Aulnay, en 1990, 900 postes étaient encore supprimés, avant une nouvelle vague entre 2004 et aujourd'hui. Cette usine, qui comptait plus de 7300 ouvriers à sa création en 1973, n'en compte plus que 3500 aujourd'hui, intérimaires compris. C'est cette politique qui se poursuit aujourd'hui, avec pour objectif, dixit la note confidentielle d'août 2010, entre guillemets, de restaurer une rentabilité satisfaisante. Ce qui est, entre guillemets, satisfaisant et ce qui ne l'est pas, en la matière, relève de critères qui ne sont pas ceux du commun des mortels. PSA n'a cessé d'annoncer des bénéfices ces dernières années, à l'unique exception de l'année 2008 où le groupe déclara une perte de 343 millions d'euros, ce qui n'empêcha pas les actionnaires de se voter, la même année, un dividende en augmentation de 10%. Mais dans le marché capitaliste, le problème n'est pas seulement de faire du profit ou de ne pas en faire, il est d'augmenter en permanence la rentabilité du capital, d'obtenir des taux de profit qui soient supérieurs à ceux des concurrents afin de continuer à attirer les financiers. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Les profits que la direction de PSA escompte tirer de la fermeture d'une usine comme Aulnay ne sont évidemment pas destinés à investir, mais à alimenter les circuits de la spéculation financière. Si ce groupe décide de supprimer d'une main des milliers d'emplois et de l'autre de surexploiter les ouvriers des usines restantes, c'est dans ce seul objectif, augmenter la quantité d'argent disponible pour spéculer. Le plan de Varin. Le plan mis au point par les équipes du PDG Philippe Varin n'est donc que la suite des plans de licenciement successifs survenus depuis 30 ans. Les documents publiés par la CGT et Mediapart sont le fruit des travaux, entre guillemets, d'un comité stratégique chargé, en 2010, de mettre au point des méthodes visant à améliorer la rentabilité du groupe. La question que se posent les actionnaires de PSA est d'augmenter les profits dans ce que l'industrie automobile appelle, entre guillemets, le segment B, c'est-à-dire, entre guillemets, les citadines polyvalentes. Ce segment correspond par exemple à la Ford Fiesta, la Renault Clio, la 207 Peugeot, la Toyota Yaris ou la C3 de Citroën, justement produite à Aulnay. C'est le secteur le plus stratégique pour les constructeurs, parce que ce sont les véhicules de ce segment qui représentent les volumes les plus importants. En 2010, sur les 4 modèles les plus vendus en France, 3 appartiennent à ce segment B, la 207, la Clio et la C3. L'objectif de la direction est exprimé clairement dans la note, ouvrez les guillemets, cibler une baisse du prix de revient de fabrication d'environ 1 000 euros par voiture sur le segment B, fermez les guillemets. Les hypothèses de marché du groupe fixant la production pour 2020 à quelque 1,3 million de voitures par an pour ce segment, un calcul très simple permet de comprendre l'enjeu. Une réduction du prix de revient de fabrication de 1 000 euros économiserait à la firme 1,3 milliard d'euros par an. Comment faire? Le groupe a identifié plusieurs, entre guillemets, leviers d'action. Fermeture de certains sites, entre guillemets, formater l'outil industriel. Chargement maximum des usines restantes, entre guillemets, adapter les capacités pour de meilleures performances. Et enfin, économie sur l'achat de pièces auprès des fournisseurs, entre guillemets, optimiser la supply chain. Chacun de ces leviers permettrait une économie sur le prix de revient de fabrication précisément chiffré, comme on va le voir. La fermeture d'Aulnay décidée, programmée et budgétisée. Pour ce qui concerne le groupe PSA, les voitures du segment B sont jusqu'à maintenant assemblées en France dans trois usines, Poissy, Aulnay-sous-Bois et Mulhouse. Ce sont ces usines que les constructeurs appellent les « UT » ou « unités terminales », des plateformes d'assemblage où les automobiles sont soudées, peintes et montées à partir de pièces produites dans d'autres usines du groupe ou chez des sous-traitants. Il est important de noter que, dans les documents publiés, la fermeture du site d'Aulnay n'apparaît qu'à la marge, tout simplement parce qu'elle a été actée bien avant que ce plan soit élaboré. L'objet de ces documents n'est pas de discuter de la fermeture d'Aulnay, mais de réfléchir à la stratégie du groupe après cette fermeture, qui a probablement été décidée entre 2005 et 2007. Ainsi, le document se contente-t-il, entre guillemets, de rappeler que l'usine de Poissy va, entre guillemets, récupérer la totalité des C3, c'est-à-dire la production d'Aulnay, et que, entre guillemets, l'arrêt d'Aulnay devrait intervenir courant 2014 après une annonce faite en septembre 2012, c'est-à-dire de façon, entre guillemets, cohérente avec le calendrier électoral français. En clair, après l'élection présidentielle, de façon à ce que la fermeture d'Aulnay ne devienne pas un enjeu de la campagne électorale. Le document, plus précis, publié par Mediapart, est illustré de nombreuses graphiques sur les perspectives de production du groupe. On y voit la disparition du site anglais de Wrighton en 2007 et celle d'Aulnay-sous-Bois en 2014. Autant dire que les démentis de la direction suite à l'annonce de la CGT, prétendant que la fermeture du site n'aurait été, entre guillemets, qu'une hypothèse de travail, sont autant de mensonges grossiers. Si les différents leviers identifiés par les auteurs de ces documents ne pourront peut-être pas tous être appliqués, en revanche, la fermeture d'Aulnay est pour eux une certitude. Le document a même très précisément chiffré les gains et les pertes de cette fermeture. Dans la colonne des pertes, le plan social, 184 millions d'euros, les dommages et intérêts aux fournisseurs, ou entre guillemets « dédits », en particulier l'emboutisseur Magneto, qui opère directement sur le site d'Aulnay, 85 millions. Et les investissements que tout cela supposera dans les autres usines, 71 millions. Total des pertes, 340 millions. Dans la colonne des gains, les économies en termes de salaire, 422 millions. Et la vente du terrain, 306 millions. Soit au total 728 millions d'euros. Bilan, une économie de 388 millions d'euros. Un graphique montre que, très logiquement, les dépenses auront lieu aux alentours de 2013-2014, lorsqu'il faudra payer le plan social, et que l'opération deviendra bénéficiaire à partir de 2015, une fois le terrain vendu. Notons que ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard si PSA vient tout juste d'embaucher, au titre de directrice de l'immobilier du groupe, une spécialiste des opérations de promotion immobilière. Voyons à présent quels bénéfices, à plus long terme, le groupe espère tirer de ce rapatriement de la production des C3 et des véhicules qui lui feront suite vers Poissy. Il s'agit clairement de surcharger la production de l'usine de Poissy. C'est ce que la direction appelle, entre guillemets, le chargement des sites existants en obtenant les volumes saturant nos sites. Les mots sont choisis avec la facilité de ceux qui ne travaillent pas sur chaîne. L'usine de Poissy sera en effet, entre guillemets, saturée de plusieurs façons différentes. Il s'agit d'abord d'augmenter ce que les patrons appellent, entre guillemets, le taux airborne, c'est-à-dire le taux d'ouverture des sites de production. Un taux airborne de 100 correspond à une usine qui tourne 16 heures par jour, 235 jours par an, 5 jours par semaine. PSA souhaite atteindre un taux airborne de 130. Il s'agit là d'un problème classique que se posent tous les industriels. Les installations ne sont rentables que lorsqu'elles tournent. Une usine arrêtée, même pour quelques heures la nuit, c'est du capital qui ne produit rien, du capital mort. L'idéal pour les constructeurs serait de faire tourner les usines 7 jours sur 7, 24 heures par jour et 365 jours par an. Mais le problème, c'est qu'il faut ensuite vendre la production qui en sort, ce qui dépend du marché et non de la volonté des industriels. C'est toute la logique de la fermeture d'Aulnay. D'une main, on baisse le volume de production et de l'autre, on surcharge les installations existantes en les faisant tourner de façon plus intensive. La direction a précisément chiffré ses objectifs en la matière. Passer d'un taux Airbor de 89 en 2010 à 130, voire 140 en 2016. Cela suppose, explique la direction, un passage de Poissy en 3-8 et ou la création d'une équipe de week-end dès l'annonce de la fermeture d'Aulnay. Cette optimisation des installations de Poissy, c'est-à-dire la réduction du temps pendant lequel les machines ne tournent pas, permettra, selon la direction, une baisse de 250 euros du prix de revient de fabrication de chaque véhicule. Mais cela ne suffira pas. Il faut par ailleurs augmenter l'exploitation des ouvriers pour permettre de nouvelles économies. C'est ce que le patron appelle du nom, là encore fort cynique, de entre guillemets, savoir-faire pour l'usine excellente. L'usine entre guillemets excellente étant, on l'aura compris, celle où les ouvriers transpirent le plus de profit. Voici comment les problèmes sont posés. Dans les années à venir, l'augmentation naturelle des salaires, celle du prix des matières premières et de l'énergie, va amener, entre guillemets, une dérive chiffrée à 170 euros par voiture. Certes, en France, cette dérive sera limitée. Blocage des salaires oblige. La, entre guillemets, dérive salariale, encore un terme qui veut tout dire, est estimée à environ 3% par an en France, contre 7% en Slovaquie et 10% en Turquie. Il s'agit donc de compenser cette augmentation des salaires par une diminution du temps passé à produire un véhicule. Les chiffres figurant dans le document publié par Mediapart sont à ce titre extrêmement instructifs. La direction y explique que les salaires lui coûtent, en 2010, 29,40 euros par véhicule et par heure. Et il faut, toujours en 2010, 23,5 heures pour assembler une voiture. C'est ce que les patrons appellent le taux HPV en UT, c'est-à-dire heure par véhicule en unité terminale. On apprend donc que les salaires pour l'assemblage d'une automobile coûtent au patron 690,90 euros en tout et pour tout. Selon les hypothèses de la direction, en 2020, le taux horaire des salaires par voiture sera passé à 36 euros. L'objectif est donc de diminuer, entre guillemets, drastiquement le temps d'assemblage d'une voiture pour la faire passer de 23,5 heures à 15 heures. La part salariale de l'assemblage d'une voiture passerait alors de 690,9 à 540 euros, soit 150 euros d'économie par voiture sur les seuls salaires. Tout le problème est donc, pour la direction, d'arriver à diminuer ce fameux entre guillemets, taux HPV, c'est-à-dire à faire qu'une voiture mette le moins de temps possible à passer sur les chaînes. Là encore, les leviers sont clairs. Accélérer les chaînes. L'usine de Poissy verrait ses cadences augmenter de 45 à 55 véhicules par heure. Poursuivre, entre guillemets, le compactage des installations, visant notamment à réduire le nombre de déplacements des ouvriers. Et la direction résume l'ensemble de ses projets par une formule aussi concise que claire, entre guillemets, polyvalence et flexibilité accrue. La question clé qui se pose aux capitalistes est et reste toujours de réussir à faire produire autant ou plus aux ouvriers en limitant le plus possible ce qu'ils dépensent en salaire. Les fariboles que distillent à longueur d'année divers commentateurs sur un capitalisme qui ne penserait plus en termes d'exploitation, mais en termes, entre guillemets, de progrès humain, n'ont visiblement pas cours dans les bureaux de la direction stratégique des industriels. Exploitation accrue aussi chez les fournisseurs. Sans entrer dans les détails, signalons qu'une autre source de rentabilité largement décrite dans les documents de PSA est, ce qui n'a rien d'une nouveauté, puisque cette politique est déjà mise en œuvre depuis 2009 au moins, le, entre guillemets, « global sourcing », c'est-à-dire la recherche permanente d'économies sur les contrats avec les fournisseurs. La direction estime que ce poste pourrait encore permettre une économie allant jusqu'à 850 euros par véhicule. Toujours adepte des antiphrases, PSA appelle la surexploitation des ouvriers sous-traitants, entre guillemets, « l'excellence relation fournisseur ». Le groupe vise une baisse de 15% de ses dépenses en matière d'achat dans les 10 prochaines années. Selon ses interlocuteurs, le groupe use, pour y parvenir, de différents moyens. Lorsqu'il a affaire à des sous-traitants qui sont au moins aussi gros que lui, sinon plus, comme Michelin, Valeo ou Lear, PSA peut traiter d'égal à égal. Lorsqu'il traite avec des PME qui dépendent entièrement de lui pour leur survie, le groupe use alors de ce que la note appelle, entre guillemets, une pression quotidienne dans la relation commerciale, pour obtenir des prix de plus en plus bas. Mais dans tous les cas, ce seront au final les travailleurs de la sous-traitance qui subiront cette pression. Pour pouvoir vendre moins cher à PSA, les fournisseurs doivent eux aussi baisser leurs coûts de production, c'est-à-dire aggraver l'exploitation et tenter de baisser les salaires. Les méthodes qu'utilisent les fournisseurs n'ont aucune raison d'intéresser PSA, qui ne regarde que la facture finale. L'avenir de Madrid et de Sevelnor. Si l'avenir d'Aulnay est scellé aux yeux de la direction, celle-ci se pose encore des questions concernant l'usine de Madrid, qui fabrique elle aussi des véhicules du segment B, et celle de Sevelnor, qui produit des véhicules utilitaires. Concernant Madrid, les réflexions de la direction tournent autour de la création de ce qu'elle appelle, entre guillemets, un site LCC des bords, c'est-à-dire une usine construite dans un pays à bas coûts salariaux, Low Cost Country ou LCC. Quant au terme de « débord », il signifie qu'il s'agirait d'une usine ouverte aux portes de l'Europe et destinée à alimenter le marché européen, à la différence des usines de Chine ou d'Amérique du Sud, destinées à alimenter le marché local. Il est à noter cependant que PSA analyse très sérieusement, dans son document, la possibilité d'importer pour les vendre en Europe des automobiles fabriquées en Inde, hypothèse que la firme semble finalement ne pas retenir, eu égard à l'évolution des taux de change et du prix du pétrole. Le site LCC Debord serait ouvert au Maroc, en Turquie ou dans un pays d'Europe centrale ou orientale, en fonction des résultats d'une étude réalisée par un cabinet de conseil indépendant chargé de renseigner PSA sur, entre guillemets, les données prospectives macroéconomiques de ces pays. L'impact de la création de cette usine dans un pays pauvre est chiffré à 120 euros d'économie par voiture, plus 65 euros d'économie supplémentaire en cas de fermeture du site de Madrid. La direction n'a visiblement pas encore décidé si l'usine espagnole sera maintenue ou si elle disparaîtra. Dans ce cas, l'un des scénarios envisagés est, admirez l'élégance des termes, ouvrez les guillemets, d'accompagner l'attrition naturelle sans réembauche et de retarder au plus tard la décision d'ajustement, fermez les guillemets. L'attrition étant les départs naturels, retraites ou décès, et l'ajustement étant le mot utilisé par la direction pour dire fermeture. Quant à l'usine de Sevelnor, issue d'une joint venture entre PSA et Fiat, son avenir est également fortement menacé. Dans la note de la direction, qui date, rappelons-le, de 2010, il est dit que, ouvrez les guillemets, la fin de la coopération avec Fiat permet d'envisager plusieurs scénarios, fermez les guillemets. La direction savait donc, à ce moment-là, que Fiat allait retirer ses capitaux en 2017, bien que l'annonce n'en ait été faite officiellement avec tout ce qu'il fallait de fausses surprises qu'en mai 2011. PSA se frotte les mains d'avance du fait que ce retrait de Fiat permet d'envisager la fermeture de l'usine en mettant la faute sur le constructeur italien. Il y a, entre guillemets, une opportunité pour partager les impacts coûts et images sociales, écrivent avec un parfait cynisme les stratèges de PSA. L'arrêt de l'usine interviendrait alors en 2015. Ce scénario semble tout de même gêner la direction qui pense qu'elle aura déjà fort à faire avec la fermeture d'Aulnay. Ouvrez les guillemets. Le planning est délicat. Il nécessite de se découvrir fin 2011 et cette opportunité est concomitante avec l'opération d'Aulnay augmentant la difficulté sociale. Fermez les guillemets. Un autre scénario est donc envisagé, consistant ni plus ni moins à demander au pouvoir public de mettre la main à la poche pour maintenir l'usine. Ce qui s'appelle, en langage patronal, ouvrez les guillemets, partager avec les autorités la difficulté de maintenir le site et obtenir des incentives, SIC, pour réduire les dépenses, fermez les guillemets. En anglais, les incentives sont des, entre guillemets, motivations dont on imagine sans peine qu'elles seront sonnantes et trébuchantes. Ce ne serait, à vrai dire, qu'une redite d'une histoire passée. Car il faut rappeler que l'usine Sevelnor de Hordain a été entièrement financée par les fonds publics sur décision prise en 1989 par un gouvernement socialiste. Un plan d'attaque mûrement réfléchi. On le voit, l'ensemble de ces documents constitue une véritable déclaration de guerre aux salariés du groupe PSA, tant à ceux qui risquent de perdre leur emploi qu'à ceux qui resteront dans les usines entre guillemets saturées. Face à ce plan, les travailleurs ne sont pas démunis. Le cynisme de la direction, qui ose imposer en quelque sorte une délocalisation de la Seine-Saint-Denis vers les Yvelines, d'Aulnay à Poissy, attire une réponse simple. Il est parfaitement possible d'imposer le partage du travail entre les usines du groupe PSA. Cela ne demande aucun aménagement technique, ni même aucun investissement, puisque les installations existent déjà à Aulnay. Cela demande que, face à la volonté de la direction de fermer une usine pour augmenter ses profits, les travailleurs imposent leur volonté et leur force collective. On le voit une fois de plus à la lecture de ce plan. Il n'y a vraiment rien d'exagéré à parler, comme nous le faisons souvent, entre guillemets, d'état-major de la bourgeoisie. À la manière des états-majors militaires, les gestionnaires de l'industrie capitaliste préparent leurs plans et leurs stratégies des années à l'avance, placent leurs pions, étudient minutieusement les moindres arguments, les moindres hypothèses. Ce sont bien ces hommes-là, ces professionnels de la lutte de classe de la bourgeoisie, qui dirigent la société. Le ton même utilisé dans leur argumentaire est révélateur du fait qu'ils savent que les pouvoirs publics ne mettront aucun bâton dans leurs roues, qu'ils feront ce qu'ils voudront, quand ils le voudront, au rythme où ils le voudront, tant qu'ils ne se heurteront pas à une contre-offensive du monde du travail. Certes, ce document n'est probablement que l'un parmi les centaines ou les milliers que les capitalistes produisent chaque année. Sa seule particularité est d'avoir été rendu public, car normalement la mise au point des plans de bataille de la bourgeoisie se fait dans le secret des sièges sociaux, sans que quiconque d'autre que le petit cénacle dirigeant des entreprises puisse être au courant. Voilà pourquoi il est indispensable que soit levé le secret des affaires, dont la seule raison d'être est de dissimuler les mauvais coups des patrons et, bien au-delà, couvrir d'un voile pudique les gaspillages, la gabegie que leur gestion impose à la société. À un degré ou à un autre, les salariés des entreprises capitalistes ont collectivement les moyens de tout savoir sur ce qui s'y passe, qu'il s'agisse de cadres, de secrétaires, de comptables, voire de l'employé chargé de passer les documents secrets dans la déchiqueteuse. Dans le cadre d'une montée de la mobilisation, on voit parfaitement comment une révélation comme celle qui vient d'avoir lieu sur le plan de Varins pourrait se multiplier par 1000, par 10 000, de manière à ce que les salariés et la population sachent tout, absolument tout, sur ce qui se passe dans les conseils d'administration de la bourgeoisie. Leurs plans, leurs comptes, leurs ententes secrètes, leurs magouilles, où est l'argent, quels sont les bénéfices réels, qui en profite, etc. Les salariés ont entre les mains les petits et grands secrets de la bourgeoisie. Si une montée de la conscience collective les amenait à décider de les révéler à grande échelle, la bourgeoisie perdrait une grande partie des moyens qui lui permettent de régner sur la société. C'est cela, concrètement, que les communistes appellent le contrôle ouvrier. Ce contrôle ouvrier, tout comme le fait d'obtenir la répartition du travail pour lutter contre le chômage, ne pourra se faire qu'au travers d'une volonté collective du prolétariat, volonté qui sera elle-même le fruit de luttes de grande envergure. Pour qu'elle l'emporte, il faudra pour le moins être à la hauteur de ce que sont nos adversaires capitalistes. Ils ont la compétence, la patience, la détermination. Ils s'organisent des années à l'avance. Ils ont, dans chaque groupe, une direction chargée de mettre au point leur stratégie, sans compter les milliers de politiciens bourgeois dévoués qui se chargent de les aider à mettre en œuvre leurs plans. Et ces hommes de main de la bourgeoisie n'ont pas peur, eux, d'être, entre guillemets, radicaux, d'être, entre guillemets, extrémistes. Dans le langage fleuri que nous avons vu, ils décident, d'un trait de plume, de rayer de la carte des milliers d'emplois, de ruiner des départements entiers. Nous n'avons aucun doute sur le fait que la classe ouvrière trouvera l'énergie et la force de se lever et de combattre les plans criminels de la bourgeoisie. Mais pour gagner, il faudra qu'elle ait, elle aussi, un état-major, une direction, en un mot, un parti aussi dévoué à ses intérêts que les gestionnaires de PSA le sont aux intérêts de la famille Peugeot. Construire ce parti révolutionnaire prolétarien, c'est l'enjeu de la période et des luttes à venir. 29 juin 2011.